France Inter, franceinter.com.
Bonjour à tous, heureux de vous accueillir dans ce magazine de nature et d'environnement, l'émission qui empêche de polluer, de réchauffer en rond, donc CO2 mon amour, avec Marc Garvenès et Olivier Daligo. Aujourd'hui à la technique et assisté de Sophie Ledoré et de Jean-Christophe Pinaza, c'est Fanny Beauhuon qui réalise cette émission. Alors une petite humeur, une humeur en forme de parenthèse, un petit moment tranquille, garanti sans OGM, sans pesticides. Entre Noël et le jour de l'an, voyez-vous, on est un peu comme qui dirait dans l'œil du cyclone, hein, qui est dans l'endroit le plus tranquille du cyclone. Trêve des footballeurs, trêve des confiseurs, trêve des cartes bleues, et si le bonheur était ailleurs? Alors on oublie tout et puis on y va. On se pose, on prend du recul, disons 380 000 km et une quarantaine d'années en arrière pour nous retrouver en orbite autour de la Lune en compagnie de l'équipage de la mission spatiale Apollo 8 le 24 décembre 1968. Au menu du réveillon, ce jour-là, en première mondiale et en exclusivité pour nos trois astronautes dans leur petite capsule, la découverte de la face cachée de la Lune. Et une mission, prendre des photos pour les spécialistes qui sont restés là-bas sur Terre. Alors un grand pas pour la science, mais rien de bien passionnant pour le reste de l'humanité. Sauf qu'au quatrième tour, autour de la Lune, eh bien, nos explorateurs lèvent les yeux en l'air et tombent nez à nez avec un croissant de terre qui leur apparaît au détour du chemin, un croissant bleu et blanc sur fond d'espace infini. Et clic ! Nos grands reporters d'images prennent la photo de leur vie, celle d'une planète qui semble soudain terriblement lointaine et vulnérable. Un spectacle à vous filer le blues de l'extraterrestre, vous savez, du genre « Moi, revois, rentrer à la maison, je veux rentrer à la maison !» Et cette photo, vous l'avez certainement déjà vue, chers amis auditeurs, car elle a fait le tour du monde. Une photo qui vous remet l'humanité dans ses petits souliers et qui a sans doute plus fait pour la cause de notre planète que tous les sommets de la Terre. Et pourtant, comme nous le fait remarquer Olivier Morton, qui est journaliste au magazine Nature, « Eh bien, détrompez-vous, dit-il, la Terre n'est pas une petite chose fragile et isolée, suspendue au beau milieu de nulle part. Depuis qu'elle tourne autour du Soleil, et notre petite planète et ses habitants ont survécu à une série, on le sait, de cataclysmes. Alors météorites, volcans, glaciations, tsunamis, dérives des continents, extinction des espèces, j'en oublie. Alors trêve de vanité, ce n'est pas nous les hommes qui mettrons la planète en danger. Tout juste réussirons-nous à faire dérailler le climat avec beaucoup de talent et d'opiniâtreté, à empoisonner les sols, à éliminer quelques milliers d'espèces, y compris la nôtre. Bref, il y a 40 ans, on rêvait de marcher sur la Lune. Et si aujourd'hui on commençait par faire la paix avec notre petite planète. Alors, faute de moyens pour vous emmener à bord d'une capsule spatiale comme tous les astronautes, passionnautes, cosmonautes et autres hôtes de la Terre, d'ailleurs à signaler que tous ces gens-là, en général, sont revenus de véritables militants de la paix et quasi mystiques pour certains quand ils ont vu notre Terre de très très loin. Donc on va revenir sur Terre, en France, 1% de la population, et on va se donner un petit coup de loupe anti-blues avec des gens très bien et très très différents. Tenez, comme celui-ci.
On déconne souvent sur le Nord, on dit que c'est moche, mais je pense que les gens qui disent ça sont vraisemblablement jamais venus, ou peut-être qu'ils n'ont aucun goût aussi, ce qui serait une explication à leur jugement un peu hâtif. Moi, je trouve que c'est très très beau le Nord. Je trouve que c'est des paysages émouvants, c'est pas banal, c'est pas ces pays imbéciles où il ne pleut jamais.
Cet homme, c'est Jean-Louis Fournier, qui a reçu le prix Femina donc, cette année en 2008. Jean-Louis Fournier, qui est originaire du nord du Pas-de-Calais, pour être précis. Et donc, nous étions avec lui. J'ai retrouvé donc, ce reportage avec lui. C'était il y a quelque temps. Nous étions au sommet du petit mont Saint-Éloi, pour celles et ceux qui connaissent, avec évidemment beaucoup de vent. Et puis, je vous emmènerai aussi du côté du Luberon. Et là, on sera dans le chaud. Oui, ce sera pendant l'été avec un homme que j'aimais beaucoup, qui s'appelle Jean-Claude Rey, dans le Vaucluse. Il nous racontera une histoire de platane. Et puis, Jean-Pierre Coff en fin d'émission, en Père Noël, un peu éreinté, vous comprendrez pourquoi. Et tout de suite, eh ben oui, il y a un homme que vous connaissez, bien sûr, c'est Jean-Marie Pelt. Alors là, c'était il y a 2 ans, c'était dans son jardin, comme on aime s'y retrouver. C'était un soir de Lorraine, en hiver. Vous verrez, il y a une petite allusion à Bush, je ne l'aurais sûrement pas faite aujourd'hui, mais peu importe. Il faisait bien froid, bien sec, et c'était beau. On regardait le ciel.
soir. Ah, je vous rejoins, Jean-Marie, pendant que vous regardez la lune. Aujourd'hui, on va pas se dire bonjour, on va se dire bonsoir.
Hein ? Oui, c'est la nuit.
C'est la nuit, c'est une très très belle nuit d'hiver. Alors, on est chez vous en Lorraine. Et là, au sommet d'un petit col, d'un petit plateau, on est à une vingtaine de kilomètres de Metz, on va dire, pas très loin de Thionville. Il y a ce ciel que vous regardez depuis que vous êtes tout petit.
Oui, je grimpais dans les arbres quand j'étais petit pour le voir de plus près, ce qui terrifiait mes parents. Alors, j'ai fait une transaction avec eux et j'ai dit que je ne grimperai plus dans les arbres quand il y aura la lune.
Oui,
c'était tout à fait moi, ça.
C'est, oui, c'est bien. Ça limitait un peu les risques, malgré tout.
Voilà. Alors, on voit, parce que c'est le ciel d'hiver, ça, c'est les avions qui atterrissent à Luxembourg.
Oui.
On voit, parce que c'est le ciel d'hiver, ce grand quadrilatère dans le ciel que vous voyez là, oui, qui est Orion. Ça, c'est très caractéristique de notre hiver dans l'hémisphère nord, avec ces trois étoiles alignées au milieu du quadrilatère. Et puis, plus au sud encore, puisqu'on le voit au sud, hein, plus on va au sud, on voit une très grosse étoile, qui est Sirius, qui est en fait la plus grosse étoile qu'on peut voir briller dans notre ciel, surtout en hiver. À l'inverse de ce ciel d'hiver, on a le ciel d'été, on a le grand triangle de l'été, avec trois grosses étoiles, Vega, dans la constellation de la Lyre, et Deneb, qui est 1000 fois plus gros que le Soleil, c'est extraordinaire, une énorme étoile dans la constellation du Cygne, et Altaïr dans la constellation de l'Aigle. Ça, c'est le ciel d'été.
Jean-Marie, dans votre conception de la Terre et, je dirais, de l'écologie, je veux dire qu'on est, évidemment pas coupé du cosmos et donc de ses étoiles non plus.
Non, on est proche du cosmos. Moi, je sens toujours, quand je regarde un beau ciel étoilé comme ce soir, il est magnifique le ciel ce soir, il est très très beau, je ressens toujours comme une présence, je ressens ce cosmos comme habité par une présence mystérieuse et proche, alors que nous sommes devant l'infiniment lointain. Et je me souviens de ce beau texte de la Bible dans le livre de Job, où Job est sur son fumier. Et puis tous ses copains lui disent: tu as dû faire des choses très, très, très mauvaises pour que Dieu te punisse d'une telle façon. Et alors, après qu'il s'est fait reprocher tout et le contraire de tout, il y a Dieu qui parle. Et alors, il parle en majesté. Et il dit à Job: mais où étais-tu donc quand j'ai fait les constellations? Quand j'ai installé le baudrier d'Orion, quand j'ai installé la grande ours dans le ciel avec ses petits-enfants, parce qu'ils pensaient à la petite ours à l'époque, déjà qu'ils connaissaient bien, car à cette époque, on connaissait déjà très très bien les constellations. Et ce texte est très beau parce que ça nous donne une profondeur et une dimension que nous ne pouvons voir que dans le silence de la nuit. Vous remarquerez qu'il y a un grand silence ce soir.
Alors chez nous, les petits ours et les grands ours, elles sont tranquilles dans le ciel, hein, c'est là.
Oui.
Ils se portent le mieux. Hein.
Et alors, la grande ours nous permet de repérer l'étoile polaire.
Voilà.
Quand on prend 5 fois la distance des 2 dernières étoiles de la casserole, on tombe pile sur l'étoile polaire. Ouais. Et l'étoile polaire, elle est toujours pareille dans le ciel, au même endroit. En fait, l'axe qui nous lie à elle, c'est l'axe autour duquel tourne le ciel. Et en fait, ce n'est pas le ciel qui tourne, c'est la Terre qui tourne autour de cet axe. Et la polaire, on la voit bien ce soir aussi dans le nord, là. Elle est là, pile au nord. Et alors tout au fond, on voit la tour de télévision.
Ce sont des étoiles qui clignotent.
Ce sont des étoiles qui clignotent. Alors j'ai négocié,
il y a une guirlande.
J'ai négocié un clignotement doux parce qu'il y avait un clignotement beaucoup plus brutal autrefois.
Ah, oui.
J'ai été les voir et j'ai dit: moi, je ne peux pas supporter ces éclairs effroyablement lumineux dans notre ciel qui doit rester calme. Et ils ont été très gentils. Ils ont diminué l'intensité du clignotement nocturne. C'est une grande victoire de l'écologie pour la région.
Jean-Marie, lorsqu'on regarde cet hiver, il est symbolisé par quels arbres, pour vous, quels végétaux?
Mais il y a les conifères, parce qu'ils gardent leurs feuilles, leurs aiguilles, sauf les mélèzes, et puis qui donnaient les arbres de Noël, naturellement, par le gui, qui reste vert sur les arbres défeuillés et décharnés, par le houx, parce qu'il reste vert toute l'année dans nos forêts, et par l'if aussi. Autrefois, l'if, c'était l'arbre du 23 décembre, parce qu'on croyait que le 23 décembre, c'était le jour qui faisait le lien entre l'ancienne année et la nouvelle année. Et c'était un jour, en quelque sorte, blanc. C'était un jour blanc. Et ce jour était dédicacé à l'if, parce que l'if vit très, très, très vieux, parce qu'il ne perd pas ses aiguilles en hiver, et parce qu'il était un petit peu l'arbre symbolique de la mort, mais aussi de la résurrection. Et c'était la célébration de la mort du soleil, puisque c'était le jour le plus court, et de la résurrection du soleil, puisqu'à partir de là, les jours commencent à s'allonger.
Jean-Marie, là on est en train de fouler la neige de votre jardin, il y en a quand même...
Beaucoup plus que je ne croyais.
Une petite dizaine de centimètres.
Oui, absolument.
Qu'est-ce qui se passe là dans cette dormance actuellement? Qu'est-ce qui se prépare? Le travail de la nature au ralenti, quel est-il?
Tous ces arbres que vous voyez là ont déjà leurs bourgeons qui sont prêts pour éclore au printemps. Ces bourgeons se sont fabriqués en été, quand on croit que les arbres ont fait leurs feuilles et qu'ils ont fait leurs fruits. On oublie de dire qu'ils ont fait aussi leurs bourgeons. Et maintenant, ces bourgeons, ils dorment. Et ils prennent une ration de froid. Et cette ration de froid, ils en ont besoin pour s'ouvrir au printemps. Et cette ration de froid, c'est ce qu'on appelle la dormance hivernale.
Jean-Marie, vous aimez... Bon, je crois que vous aimez vraiment les quatre saisons sans trop de distinction. Mais qu'est-ce qui caractérise pour vous vraiment l'hiver entre ce que vous vivez aujourd'hui puisque vous avez vécu aussi un peu plus jeune?
L'hiver pour moi c'était la luge et la glisse quand j'étais jeune. C'est quelque chose qui est devenu maintenant très rare parce qu'il n'y a plus beaucoup d'hiver et parce que les périodes de gel longs et qui sont nécessaires pour qu'un étang prenne une couche de glace suffisante sont rares. Donc la glisse sur les étangs, c'est devenu quelque chose de rare. Mais nous avons les patinoires sur la tour Eiffel. Nous avons dompté la nature. Voilà un exemple frappant. La patinoire est sur la tour Eiffel. On vient de voir ensemble, on peut le dire, un film sur la tempête de 99. Ouais. Et on a revu avec émotion la puissance fabuleuse de la nature quand elle se déchaîne. Et notre devoir, c'est d'essayer de faire qu'elle ne se déchaîne pas, de ne pas détraquer complètement le climat et de prier tous les soirs plusieurs chapelets pour Monsieur Bush, pour que Monsieur Bush devienne intelligent et comprenne qu'il est responsable devant les générations futures, ce qu'il n'a pas compris parce qu'il n'a pas le niveau de conscience, à mon avis, suffisant pour comprendre ces choses-là. C'est très dommage.
On est en train de fouler, Jean-Marie, cette nappe blanche. Et avec les ombres portées par la lune, on est, je veux dire qu'on est comme en plein jour, mais je veux dire, mais quel merveilleux projecteur, quoi, une fois de plus.
Oui, c'est le petit luminaire. Ouais. On évoquait dans l'Antiquité les deux luminaires. Le soleil qui est le luminaire qui éclaire le jour et la lune qui est le luminaire qui éclaire les nuits. J'aime beaucoup, des nombreux, mais beaucoup, de textes de la Bible qui évoquent le cosmos et qui sont tous très beaux parce qu'il y a toujours cette idée que l'homme est petit et qu'il a reçu tout ça en héritage et que ça durera. Alors ça durera même après nous en tant qu'individu, mais peut-être que ça durera après nous en tant qu'espèce si nous devions nous détruire nous-mêmes. Ce qu'on ne va pas souhaiter ce soir.
Non.
Parce que c'est trop beau ce soir pour souhaiter ça. Il faut que les générations futures découvrent ce même paysage comme nous le découvrons maintenant dans ce grand silence de la nuit lorraine, à proximité, à portée de main de la Belgique, du Luxembourg, de l'Allemagne. Nous sommes au cœur de l'Europe.
Voilà, donc un Jean-Marie Pell qui est aussi un excellent astronome amateur, on l'a compris, rediffusion de ce reportage donc chez lui. Un homme aussi d'ailleurs qui n'est pas du tout d'accord avec la pollution lumineuse, on y reviendra d'ailleurs au cours de cette année avec aussi un reportage. Et puis nous débuterons la semaine prochaine, l'année comme on l'a quitté, je m'explique, c'est-à-dire que nous serons aussi dans son jardin pour les vœux, pour souhaiter évidemment les vœux 2009.
Caniculaire dans l'enfer idyllique des bords de mer, refoulé par la foule au fond des criques. Si j'ai pas le choix, d'accord, mais si on l'a, je préfère encore passer l'été au Labrador à faire des loufoqueries, des folies de mon corps au soleil de minuit. Imbibé d'aquavite, tout nu sur la banquise, entre deux inuits exquises, la chair enduite de graisse de phoque. Classe. La la au volant de main de chevaux. C'est l'hiver en Mongolie, à traquer le yéti, piétiné par les yaks, sans anorak, les doigts gelés, le nez qui coule, les dents qui claquent. Y en a que ça fait bander, mais moi personnellement je craque pour passer un hiver hyper cool, sans cagoule et sans poule, over. Loin des stations de ski, moi et ma petite poule, on préfère passer l'hiver au lit, blotti comme de pivert, l'hiver au lit à l'hiver, poule. Bam-ba-da-di-da, flam-da-da-da-da, flam-ba-da-da-da-da-da. Passer l'hiver au lit, blotti comme de pivert, l'hiver au lit à l'hiver.
Et ben voilà, c'était donc Jacques Higelin, l'hiver en lit à Liverpool. Donc là, c'était pas en Lorraine. Ceci grâce à Emmanuel Chupin qui a choisi donc nos disques. Et nous allons partir dans un autre hiver avec un autre homme, un écrivain, Jean-Louis Fournier, dans le Pas-de-Calais.
Là-bas. Hein ?
Alors là,
superbe.
C'est la vallée de la Scarpe, c'est ça ou c'est...
J'en sais rien, peut-être bien.
Ouais, j'ai vu ça sur une carte. Pour ça.
Mais je suis pas convaincu que ce soit là-bas. En tout cas, c'est une vallée et puis c'est très joli. Puis alors, ici, c'est que la nature est toujours... Elle bouge, elle remue, elle gigote tout le temps parce qu'il y a le vent, il y a une espèce de bras, là, puis il y a les nuages aussi qui se baladent au-dessus de tout ça. Moi, j'aime bien ça. Ça m'embarque un peu, tous ces paysages-là.
Je vous confirme bien que la vallée de la Scarpe est bien à nos pieds, donc non loin d'Arras. Nous sommes sur le mont Saint-Éloi, entre Arras et Lens, hein, pour faire simple. Et nous sommes avec Jean-Louis Fournier, cet homme qui a reçu le prix Femina, qu'il a dédié d'ailleurs à Mathieu et à Thomas, ses enfants. Où on va, papa, donc chez Stock. Et puis aussi, il n'a jamais tué personne, mon papa. Et là, il racontait, avec son regard d'enfant de 8 ans, la vision de son père, qui était médecin et alcoolique, avec beaucoup de jovialité. Parce que c'est un homme, en fait, qui a une désespérance assez joyeuse, si vous voulez, Jean-Louis Fournier. L'humour sauve cet homme tous les jours, comme ça, par le col. Et donc, on est revenu un peu sur cette ère d'enfance, avec des beffrois comme ça qui s'envolent. Vous avez une espèce de césure de glaise entre le ciel et la mer. C'est très touchant. Les terrils ne sont jamais très, très loin dans ce paysage, ou même dans les têtes. Et puis, avec Jean-Louis Fournier, eh ben, on s'est abrité parce que vous allez comprendre que le vent est quand même bien là. On va téter de l'air dans le Pas-de-Calais, chez lui. C'est sa première nature, sa seconde maison, une respiration. On y va, c'est parti avec Jean-Louis Fournier.
«
face à nous, on a donc un champ avec des moutons. On a le cimetière qui est juste à côté. Et puis, alors, au loin, donc, la vision, je dirais pas surréaliste, mais qui est tout à fait actuelle, en fait, celle d'Arras avec des tours.
Arras qui devient une espèce de grande ville parce que tout pousse, tout bouge. Et maintenant, c'est une très, très grande ville. Non, mais il y a une belle lumière, vous voyez, quand on déconne souvent sur le nord, on dit que c'est moche, mais je pense que les gens qui disent ça n'ont sont vraisemblablement jamais venus, ou peut-être qu'ils n'ont aucun goût aussi, ce qui serait une explication à leur jugement un peu hâtif. Moi, je trouve que c'est très très beau le nord, je trouve que c'est des paysages émouvants, c'est pas banal, c'est pas ces pays imbéciles où il ne pleut jamais.
Alors là, on va quand même essayer de tenter, j'allais dire, un déplacement. On a donc l'herbe qui est couchée par le vent. Tenez, on va se mettre dans un repli. Ah, c'est très beau. On va se mettre dans un repli de la pierre, là, si elle veut bien nous héberger. Les murs, d'ailleurs, sont presque verts, parce qu'il y a de la mousse, évidemment, ouais. qui est arrivée
c'est
dessus.
C'est beau, hein, cette espèce de pavé. C'est comme les pavés dont on faisait les fameux pavés du Nord. Là ils sont à la verticale, ils ne sont pas à plat.
Alors, c'est une terre de betterave, ici.
Terre de betterave, j'en ai encore un petit peu à mes sabots.
Oui.
Terre de betterave, oui, c'est betterave des sucrières et les betteraves à vaches. Ah, les vaches.
Attendez, on va se mettre à l'abri de l'arbre. Voilà. Ah, c'est bien, on n'a pas encore décollé quand même, Jean-Louis Fournier. Ouais. C'est bien. Alors là, le vent nous laisse quand même très très peu de répit, mais on domine la plaine. Hein. Ça nous rappelle un peu le désert des Tartares, là, comme ça, là où on est. Et c'est vrai qu'on est quand même déjà sur une petite butte.
Ouais. On pourrait presque voir la mer, parce que vous savez, on a la mer dans le Pas-de-Calais aussi.
Oui. C'est-à-dire le Cap Brinet et le Cap Blanc-Nez sont plein ouest, là, si on se retourne.
Donc, et c'est le Touquet Paris-Plage qui n'est pas trop loin.
Ça, c'est un beau nom, le Touquet Paris-Plage.
Oui, c'est un côté un peu belle époque, les années 30.
Cette campagne, elle a beaucoup, beaucoup changé depuis que vous étiez môme.
La campagne en soi, là, où on est ici, non, mais c'est toutes les routes qui ont changé, parce que maintenant, la route et la voiture est devenue quelque chose de tellement important et on sacrifie pour elle tellement de choses. On est en train de couper des arbres, justement, parce qu'il paraît qu'ils font du mal aux voitures. Moi, je trouvais qu'il faudrait plutôt couper les voitures parce qu'elles font du mal aux arbres, mais c'est un point de vue très particulier. Et alors, c'est vrai qu'on abîme un peu. Alors, on fait des rocades, on fait des grands ronds-points et tout ça, d'une grande laideur. Et puis, ça, et on doit sacrifier certainement quelques arbres et quelques beaux coins pour que les gens puissent aller très, très vite en voiture. Vous voyez, il faut absolument les laisser pouvoir aller vite. Alors, on abîme beaucoup la nature pour ça. Et ça, c'est une chose que vraiment je ne supporte pas très bien.
Puis Jean-Louis, il y a évidemment dans ce paysage les briques, et ça donne tout de suite un ton, un style, une ambiance, une harmonie à tout ce que l'on voit ici.
Mais c'est beau les briques, hein. Je trouve qu'avec le vert ça marche bien, d'ailleurs elles verdissent un peu avec le temps. Ouais. On a l'impression qu'elles sont contaminées par tous les végétaux autour, elles deviennent vertes avec de la mousse. Mais moi j'aime beaucoup les briques, je trouve que c'est un matériau, et puis en plus c'est l'idée que ça a été cuit. Je ne sais pas pourquoi, pour moi ça me fait penser à... J'ai l'impression que c'est des maisons faites avec des biscottes. Le fait qu'on cuise les briques, ça m'a toujours intéressé quand j'étais gosse. Alors pour moi c'est des espèces de grands gâteaux, toutes ces maisons.
Alors là où on vous parle, d'ailleurs on est presque adossé à un mur de briques, parce que ce vent est toujours extrêmement présent. Ça doit être, je ne sais pas, 80 km/h, ils annonçaient ce matin, donc à la météo.
Il fait des championnats de vitesse.
Non, c'est un athlète là.
Mais les briques, je sais pourquoi je vous dis que les briques, ça me fait penser à des gâteaux. C'est parce que ma mère faisait un gâteau qui s'appelait une brique. Et elle empilait comme ça, c'était comme un mur, elle empilait des gâteaux, ce qu'on appelle les petits lus, vous savez. Puis elle les faisait tremper dans du rhum, elle les empilait, et puis elle mettait une crème aussi au-dessus, et c'était une brique. Donc c'est pour ça, cette relation. Vous voyez les... Merci, docteur Freud.
Cette campagne, pour ceux et ceux qui ne la connaissent pas, comment on pourrait la dépeindre? C'est-à-dire que c'est vrai qu'on voit relativement peu d'arbres, mais pourtant il y a des bosquets, il y a quand même des petits bois.
On pourrait la dépeindre parce qu'elle a un grand ciel. J'ai l'impression que le ciel du Nord est particulièrement grand. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours cette impression d'un très très grand ciel au-dessus de cette campagne qui dévore tout. Et puis le ciel, c'est l'endroit par où
par où on s'échappe. Moi, tout ce qui se passe sur Terre me plaît pas trop. J'aime pas trop les rocades, j'aime pas trop les panneaux publicitaires qu'on fout partout. Le ciel, c'est un endroit où on peut pas foutre des panneaux publicitaires. Il y a pas encore un imbécile qui a pensé à aller foutre dans le ciel des affiches, buvez machin. Oui. Si, cela dit, quelquefois des avions qui traînent des banderoles. Mais c'est quoi ? Enfin, le ciel, c'est encore des endroits qui restent complètement vierges. Les nuages, tout ça, on leur peint pas dessus des noms de marques. Et ça, j'aime bien ça. Puis ça bouge, et puis je sais pas, c'est l'infini. Qu'est-ce qu'il y a là derrière ? Peut-être que c'est ça aussi.
Ouais.
Ah, le ciel, c'est fantastique. Puis j'aime bien les oiseaux.
Alors, on a le spectacle fabuleux dans cette abbaye Saint-Éloi, des nuages qui passent pratiquement dans le cœur de cette église.
Ah oui, c'est joli.
Comme à travers un écran.
Ah oui, ça, je trouve ça très très joli, là. Le truc qui bouge pas. Enfin, ici, on a un museau, justement, qu'elle va s'effondrer, là. On voit le ciel qui bouge, là, c'est génial.
Nous sommes à l'abri. Qu'est-ce que c'est ? C'est une ancienne...
C'est l'abbaye de Mont-Saint-Éloi. C'est une très vieille abbaye. Il n'y a hélas plus de moines dedans, parce qu'il n'y a plus de toit.
Ah,
ils seraient mouillés s'ils habitaient ici.
Mais il y a du pigeon, parce qu'on voit...
Il y a beaucoup de pigeons.
Voler de plumes à terre.
Il y a beaucoup de pigeons. Alors, quand j'étais gosse, c'était un endroit où je venais faire du vélo.
Ouais.
Parce qu'il y a une très grande côte pour arriver. Alors, c'était dur, évidemment, de la monter, comme toutes les côtes. Mais ce qui était formidable, c'était de la descente, surtout quand il y avait du vent. Parce qu'après, on faisait quelquefois 2-3 km sans donner un coup de pédale. Et c'était extraordinaire, parce qu'on avait l'impression d'être sur une moto. Et on avançait comme ça dans le silence, sans polluer.
On peut imaginer, là, comme ça, on peut se projeter sur un paysage comme celui-là. Je sais pas, est-ce que là, vous revoyez des bouts de votre enfance ou bien est-ce que vous pouvez commencer à bâtir une histoire ?
Bien sûr, je revois des bouts de mon enfance parce que je pense que toutes ces routes-là, quand je regarde toutes ces petites routes, là, je vois une traction noire, pleine de boue, qui était noire en dessous de la boue. Et puis dedans, il y a un mec qui me ressemble un petit peu, c'est papa. Et puis papa, il va dans les fermes et puis il va soigner les gens. Et puis en même temps, il boit un petit coup après.
Mais alors, il est très apprécié, papa.
Adoré.
Ouais.
Adoré. Je vous dis, à son enterrement, de toute façon, on pouvait faire la différence entre la famille et des clients. Ceux qui pleuraient et ceux qui pleuraient pas. Ceux qui pleuraient, c'était les clients. Ceux qui pleuraient pas, c'était la famille. Ben oui, on n'avait pas eu la chance d'être ses clients, nous.
Il connaissait les ornières aussi, parce qu'il y a des fois, il rentrait à pied.
Oui, parce qu'il lui arrivait souvent le soir, quand il était bien fatigué, quelques bières aidant, il rentrait à la maison et ma mère disait, mais où est la voiture ? Il disait, je sais pas. Et le lendemain, il y avait un cultivateur qui téléphonait à ma mère en disant, madame, il y a la voiture du docteur qui est au milieu de mon champ de betteraves. Alors il s'était tapé comme ça quelques kilomètres dans le champ de betterave. Puis après il était rentré à pied. Alors les cultivateurs venaient avec leurs chevaux et tout ça, c'est toujours la plaisanterie. Puis on sortait la traction avec des chevaux, puis on la conduisait sur la route. D'ailleurs un jour il y a un cultivateur qui a dit, le docteur il ferait mieux d'aller faire ses visites à tracteur comme ça, au moins ils s'en liseraient pas.
Attendez, derrière nous on a justement quelques moutons que peut-être que votre père a rencontré, enfin pas ces moutons-là, mais...
Il ne fallait pas souhaiter aux moutons de rencontrer mon père,
ah oui.
Je peux vous dire, parce qu'il lui arrivait comme ça, je sais que, notamment, une fois, il s'est payé un troupeau de moutons, et comme par hasard, le berger n'était pas trop bête, parce que, pour l'assurance, il a déclaré que mon père n'avait tué dans le troupeau que les brebis pleines et que les agneaux.
Ah oui, comme par hasard.
Mais ça, oui, comme par hasard, les vieux moutons pourris, les vieux béliers, tout ça, cela, il n'y a pas touché. Il n'a touché qu'au bon, on avait l'impression qu'il avait choisi, que l'attraction ne choisissait que la bonne viande et la viande chère.
Mais il écrasait pas les bergers quand même.
Non, il s'arrêtait pile jusqu'au berger en général.
J'ai appris une chose, Jean-Louis Fournier, c'est que, en fait, vous avez été cultivateur.
Oui, j'étais cultivateur.
Avant d'être réalisateur.
Oui, j'étais cultivateur.
Et classé sur auteur.
J'avais épousé la fille d'un cultivateur qui avait 200 hectares, à peu près, dans le Pas-de-Calais.
Elle avait des biens, quoi.
Vers Hédin. C'était pas pour ça que je l'avais épousée.
J'espère.
Parce qu'elle avait des beaux yeux. Et donc, je m'étais dit, comme un fou, je vais retour à la nature. J'ai victime de Jean-Jacques Rousseau et de ce retour à la nature, ah, un petit peu bébête quand on connaît pas. On dit que c'est toujours merveilleux ailleurs. Et j'ai commencé à aller labourer, à aller faire le fumier, à aller ramasser les betteraves. Et je peux vous dire qu'il faut avoir soi-même travaillé la terre pour savoir qu'être agriculteur. Le soir, quand on rentre, on n'a pas envie d'écrire des poèmes et des scénarios. Le soir, on pique son nez dans son assiette de soupe. On relève un peu la tête sur la télé qui marche. Et puis, on va se coucher. Et puis, le lendemain matin, on se relève. Et c'est très, très dur de faire de la culture. Le fumier, je n'oublierai jamais. À l'époque, il n'y avait pas de pelle à fumier. Il fallait faire le fumier à la main. J'allais me laver les mains après chaque pelletée de fumier parce que je trouvais ça un petit peu sale. Et puis, les betteraves. Les betteraves, c'était terrible aussi.
Alors, c'est là-bas, c'est vers Hédin, c'est ça là?
C'était vers Hédin, voilà. C'est-à-dire c'était entre le Touquet et Arras. Il y avait les vaches qui étaient sympas.
Vos copines, c'est...
Il y avait mes copines, les vaches. Il y avait 60 vaches et il y en avait une génisse. Elle me regardait avec un regard troublant. Et je me disais, celle-là, ça doit être une princesse ensorcelée. Vous savez, c'est arrivé à certaines princesses comme oui. ça d'avoir été transformées par une mauvaise fée en vache.
À minuit.
Et je suis sûr, elle me regardait d'un air troublant. Je suis sûr que ce n'était pas une vraie vache. Seulement, j'étais marié avec le fermier. Je pouvais difficilement aller faire la cour à la génisse parce que le père n'aurait peut-être pas bien compris.
Non.
Alors, je lui faisais comprendre à mes regards que j'avais bien vu qu'elle n'était pas une vraie vache. Alors, je pense que pour la sortir de ce sort épouvantable, il aurait peut-être fallu aller la voir et puis lui dire « je vous aime ». Mais aller dire « je vous aime » à une génisse, c'est quand même un certain risque. J'ai pas osé. Puis j'étais marié. Oui. Et les liens sacrés du mariage.
Bah ça, oui, ça pose des problèmes, même avec une femme extrêmement tolérante. Quoi.
C'est ah oui, non. J'ai toujours aimé les vaches. Et je trouve inouï d'ailleurs qu'on interviewe les professeurs de médecine, les vétérinaires, les mecs de l'agroalimentaire, les ministres et tout ça. Et il n'y a pas un gars, un journaliste comme vous, Denis, qui ait tout d'un coup l'idée d'aller interviewer une vache. Parce qu'il ne faut pas penser que les vaches, vous savez, ce sont peut-être des animaux, c'est des rumsteaks.
C'est des êtres
sensibles. Mais au milieu du rumsteak bat un cœur. Pas un cœur, et souvent un cœur de biche. La cohabitation entre un cœur de biche et des rumsteaks, vous savez, c'est quelque chose de difficile.
Et sur cette musique mécanique qui nous rappelle les Ducasses du Nord, eh bien, vous comprendrez pourquoi Jean-Louis Fournier était très copain, évidemment, avec Pierre Desproges au moment de sa mort. D'ailleurs, c'est à lui que l'on doit, dans la dépêche de l'AFP, le titre « Pierre Desproges est mort ». Étonnant, non ? Voilà. La grammaire impertinente, vous la connaissez, c'est très bien. Conjuguer le verbe péter au premier groupe, ça fait beaucoup, beaucoup aider et évoluer donc la grammaire. C'est, il l'avait écrit, Jean-Louis Fournier, « La Noiraude » aussi. Il a jamais tué personne, mon papa, et puis son dernier ouvrage qui marche évidemment formidablement, Où on va, papa, donc dédié à ses enfants handicapés. Donc nous étions sur le petit mont Saint-Éloi. Il y avait un peu de vent, vous l'avez compris, mais je crois qu'on s'est fait plaisir. Et puis un grand merci à Fanny Beauhuon et à Pascal Baldassari qui ont donc mixé ce reportage.
Bon, alors si tu as de la pollution dans les calots, du nitrate dans les esgourdes et des pots d'échappement dans le tarbouif, eh bien, tu te mets au vert et t'écoutes CO2, mon amour. Tu verras, c'est pas mal du tout.
CO2, mon amour, Denis Chessou.
Rudy likes your pearly whites and she wants to talk in the basement of her place. Oh, place. And Rudy takes all the time in the world to smell the flowers and walk in heels with grace. Oh, grace. Everyone is wanted her the way that she wanted to be wanted in the first place. Oh, place. And everyone is needing her the way that she needed to be needed.
Hey, hey, hey.
Elle n'est pas belle la programmation musicale de France Inter, un samedi après-midi, comme ça en direct dans le froid. Mais oui, c'était Claire and the Reasons. C'est bien après, on va dire, comme ce moment un peu venteux dans le Pas-de-Calais avec Jean-Louis Fournier, je vais vous proposer un petit pain de soleil. Ah, ça va nous faire du bien. Balade dans le Vaucluse, sous les platanes, avec un homme qui s'appelait Jean-Claude Rey. Alors, on ne parle pas du platane sournois, vous savez, dont on fait allusion Fournier tout à l'heure, qui se jette sur les voitures des jeunes à 3h du matin avec 2 grammes d'alcool dans le sang. Non. On va parler du platane courtois, civilisé, celui des places publiques du midi. Et c'est l'occasion aussi pour moi donc de rendre hommage à cet ami Jean-Claude Rey que j'ai rencontré il y a une trentaine d'années et qui a eu qu'un seul manque de délicatesse dans sa vie, c'est celle de l'avoir quitté un peu trop tôt il y a un an. C'était un raconteur de sa Provence, Jean-Claude. Et donc là, nous sommes chez lui, au pied du Luberon, pas très loin de Villelaure. Bonjour Jean-Claude Rey.
Bonjour Denis Chessou.
Nous sommes chez vous dans ce très beau département du Vaucluse et nous sommes.
Ben oui, mon Dieu. Mais c'est vrai. C'est pour ça
qu'on pas partout, mais quand même.
On va ailleurs. Reste là, vous venez nous voir.
Là où vous êtes, c'est quand même bien. Sur le flanc sud du Luberon.
Oui, voilà. À Villelaure. Je suis né là-bas. Oui. Là, chez moi. Ça fait 19 générations que j'embête tout le monde.
Bon, et ben écoutez, continuez. Alors je ne sais pas combien ils ont de générations derrière eux, mais nous sommes face à ces platanes. Et vous allez nous dire quelques mots quand même de cet arbre qui n'est pas venu tout seul. Je crois qu'il est venu d'Orient. Celui-là.
Oui, absolument. C'est un arbre qui n'est pas si vieux que ça en Provence. Maximum 1780, ouais. Je crois. Et moi, celui que vous voyez là, c'est un des plus beaux de Provence parce que vous voyez, ça, c'est énorme. Il n'est pas taillé. Surtout, il n'est pas taillé. Ouais. On l'a laissé vivre. Et il vit dans un sol extraordinaire qui est très humide. C'est le célèbre platane de Lamanon. Mmh. Et d'ailleurs, vous voyez très bien que là, au-dessus, la voûte de l'arbre est gigantesque. Il y a plus de 50 mètres de diamètre d'ombre. Ce qui fait qu'il y a 3000 personnes qui peuvent sans bronzer se mettre sous le platane.
Et jouer à la pétanque dessous
Non, parce que jouer à la pétanque, on n'est pas serré. Mais 3000 personnes bien serrées dans la circonférence ombreuse du platane, n'est-ce pas ? C'est un arbre gigantesque. Je crois qu'il fait 9 ou 10 mètres de circonférence. C'est quelque chose de fabuleux. Mais il n'a jamais été taillé. Et en gros, il doit dater du parc du château, qui est du 1850, quelque chose comme ça. Alors les platanes, c'est très, très hasardeux. Il y en a d'énormes. Qui sont pas très vieux. Mmh. Il y en a de tout petits qui sont très vieux. Ça dépend du sol qu'ils rencontrent, la possibilité de s'alimenter ou autre. Je vous citerai un exemple. Celui-là, je ne vais pas vous montrer sur place, mais enfin, croyez-moi sur parole. C'est à Cucuron. Mmh. C'est un joli pays qui se trouve pas loin de chez moi. Et à Cucuron, la propriété des Bombes de Villiers contient des platanes depuis aussi longtemps que possible, je ne sais pas, 1830, 1850, 1820 à peu près. Et il y en a un de platane qui est un anthropophage.
Ah,
il bouffe les autres arbres. Oui. C'est incroyable. Il est au bord d'un chemin d'ailleurs. Il a fait exploser le mur séparant la propriété du chemin. À la place, on a mis un grillage, il a bouffé le grillage. C'est-à-dire que l'écorce pénètre le grillage et petit à petit l'absorbe. Mais ce qui est plus formidable, c'est qu'entre le mur de séparation de la propriété et le platane ancien, il y avait aussi une haie de cyprès. Des cyprès qui avaient bien 10 ans d'âge. Parce qu'il y a des témoins à côté quoi, qui ont tenu le coup, puisqu'ils sont séparés du platane d'assez loin. Mais le platane, en grandissant, a absorbé les cyprès. Et pendant un temps, et maintenant c'est en train d'être recouvert, pendant un temps, on voyait les cimes des cyprès qui dépassait de l'écorce du platane. Il n'y avait plus de feuilles.
On l'appelle platanator, d'ailleurs, celui-là.
Ah oui, un albator terrible, celui-ci. Terminator, un platanator, c'est pas mal. Moi, j'aime beaucoup. Vous voyez, le platanator de Cucuron, il est digne d'intérêt parce qu'on s'aperçoit que ce ne sont pas des arbres qui font du sentiment, quoi. Et il mange. Celui-là, il doit avoir les pieds dans une source, cette source qui donne ce qu'on appelle l'étang à Cucuron, qui est d'ailleurs entouré de superbes platanes. C'est un endroit à voir, ça. Les jours de canicule, vous voyez, il fait toujours 20 degrés de moins qu'ailleurs, à cet endroit. On est bien, c'est fabuleux. Et surtout, ça vous laisse le temps d'aller voir le platane anthropophage de Cucuron. Souvenez-vous-en. Thank you.
Jean-Claude, en plus, cet arbre, c'est toujours été... Et principalement, le platane, c'est un arbre d'ornement. C'est-à-dire qu'on le pose à un endroit, on le plante à un endroit. C'est ça, c'est-à-dire que lorsqu'on le voit le long des routes...
Ah, c'est pas un hasard.
Non.
C'était pour abriter les conducteurs de diligence et les passagers. On avait mis auparavant des marronniers, qui ne sont pas si vieux que ça non plus. Ils ont 300 ans à peu près d'importation en France. Avant, il y avait des ormes. Après, il y a les marronniers, il y a eu les peupliers. Et puis, comme ça ne durait pas trop, on a trouvé le platane. Le platane est formidable, mais comme me disait un cantonnier de mes amis qui en avait marre de balayer les feuilles, si on avait su, on aurait mis autre chose, parce que les feuilles de platane sont les seules feuilles fournies par les arbres qui soient imputrescibles. Et donc, ces feuilles encombrent. Ah oui. C'est une ruine pour les municipalités, les feuilles de platane. C'est pour ça que les municipalités hésitent à planter du platane. Parce que et maintenant, alors, on met des produits importés, du genre mûrier de Chine, micoucoulier, le farabrier en provençal. C'est l'arbre qui produit des petites micoucoules, on appelle ça des petites cerises. Ce n'est pas. Mais ce sont des petites baies qu'on croque lorsqu'on est enfant, lorsqu'elles sont bien mûres, on les ramasse par terre, elles sont bonnes par terre. Il y a un peu de tout. Parfois, on a un bout de chewing-gum collé, mais c'est bon lorsqu'on mange ça. Oui. Mais ce sont des arbres d'ornement. Et les platanes, tout à l'heure, lorsque vous parlez de celui de Cucuron qui bouffe tout, ça peut être aussi très gentil. Parce qu'à Cadenet, alors, devant l'église de Cadenet, il y a un étonnant symbole, c'est l'acacia qui a gironné dans un platane. C'est-à-dire qu'il y a une graine d'acacia qui est tombée dans une pourrissure de platane, hein, parce qu'il y a des troncs mal coupés, où une branche a été élaguée de façon un peu bizarre.
Donc il a pu pousser.
Cet acacia, actuellement,
Platane l'a hébergé, quoi.
Oui, on peut dire ça. Il a sa chambre, son couvert, parce qu'il fait comme le gui, il suce l'autre platane. Et il y a cette espèce d'arbre qui sort d'un platane, un acacia, il fleurit par même temps. Oui. C'est assez étrange. Et sur le banc, qui est au pied de ce mariage d'arbres, il y a toujours un de mes vieux amis qui est d'origine franc-maçonnique, on va dire, de famille franc-maçonnique, chez qui l'acacia est tout à fait symbolique. Et il dit quand même, c'est beau, devant une église, qu'on n'ait pas pensé à planter des acacias et que la nature en ait fait pousser eux.
Vous ne me direz pas que ça ne fait pas du bien quand même. Là, on est en train de se geler du nord au sud, de l'est à l'ouest de la France. Et on a des cigales, on a des martinets. Et surtout, la voix chaleureuse, c'était celle de Jean-Claude Rey. J'espère que vous pourrez retrouver d'ailleurs aussi ses ouvrages, entre autres Les mots de chez nous, qui étaient issus de ses chroniques de France Bleu Provence et de France Bleu Vaucluse. Voilà, donc c'était un formidable raconteur du monde provençal et aussi de la nature. Et dans quelques instants, allez, une petite surprise. Oui, on l'a retrouvé lui aussi. Jean-Pierre Coff, je ne vous fais pas de présentation. En Père Noël, ah bah oui. Ça va être destroy.
Rien ne salit, rien ne tâche, rien. Ça fait quelque chose.
2, 3, tournez, tournez, c'était Eddy Lagouillache sur France Inter, Émilie Fleurbleu, c'est-il pas mignon tout ça? Alors nous étions, vous le savez, avec Pelt en Lorraine, nous sommes allés dans le Pas-de-Calais, dans la région Nord-Pas-de-Calais, avec Jean-Claude Rey dans le Vaucluse. Et tenez, quand même, petit détour sur Paris, parce que hier soir j'ai été mais vraiment très épaté par un spectacle au Théâtre de l'Européen. Ça n'a aucun rapport avec l'environnement, mais c'est un vrai coup de cœur. On a droit comme ça. Vous avez donc les nouveaux-nés avec Alain Reynaud et Nicolas, qui se sont, entre guillemets, mariés avec trois autres formidables artistes de jazz. Et ça vous donne le jazz fait son cirque. Faut y aller, vous y allez en famille, aucun problème. Les petits comprennent, tout le monde comprend. Le jazz fait son cirque au Théâtre de l'Européen, c'est jusqu'au 4 janvier. Et c'est de la légèreté au service d'une créativité musicale et visuelle tout à fait exceptionnelle. Voilà, un vrai coup de cœur. Alors un autre coup de cœur, on va continuer à colorier la vie avec un homme que l'on ne vous présente plus. Voici le vrai Père Noël. Pas tendance boulevard Haussmann en CDD, non, le vrai Père Noël.
C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc, et les yeux levés vers le ciel, à genoux, les petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière prière.
Bonjour Père Noël. Vous n'êtes pas trop fatigué quand même un 25 décembre après-midi?
Ah, m'en parlez pas. Éreinté, vidé, rincé, vous voulez dire, non? C'est plus de mon âge d'aller ramper sur les toits. Mais si c'est pas moi qui fais le boulot, alors il n'y aura plus personne.
Ah oui, d'accord.
Non, les jeunes ne veulent pas s'y coller. La génération est confite dans la bouffe industrielle. Ils disent boulot d'extérieur, manuel, acrobatique. Ah, trop oui. Pénible, trop oui. Pénible, disent-ils. Alors qu'en fait, donner du bonheur. Qu'est-ce qu'il y a de mieux?
Et alors, à ce sujet, quand même, sur les tables, c'était le réveillon. Vous avez été invité ou...
Ah non, 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 je refuse toujours, moi. Ah non, non, non.
Ah oui.
Oh, bah, attendez, avaler dans 90% des cas du surgelé réchauffé un poulet de compétition qu'on vous fait passer pour du chapon. Ah non, merci. Moi, j'ai autre chose à faire, monsieur.
D'accord, oui, c'est un peu le principe de précaution, ça, je comprends bien. Et les enfants, alors comment sont-ils avec vous, Père Noël?
Ils sont plutôt charmants, attentifs, ils prennent des nouvelles de ma santé, ils me proposent un pull-up vert, de la vitamine C, ou alors ils sont carrément odieux.
Ah.
Mais odieux de chez odieux. C'est tout ce que t'as apporté. Toi, c'est même pas les 35 heures que tu fais, 24 à peine en une journée. Le reste de l'année, tu fais quoi? Oui, ils me disent ça.
Ah oui.
Non. Des petits consommateurs blasés, odieux,
nanus. Non, mais on voit très bien le genre. Est-ce que vous avez quand même malgré tout senti un comportement, je dirais, un peu plus écologique cette année?
Comment?
Non, un comportement, je dirais, enfin, écologique. C'est...
Écologique?
Oui, oui.
Mais c'est quoi ce mot-là? On est en France, mon vieux, je vous le rappelle quand même.
Ah oui.
Non, mais attendez, on est en France, des lumières partout, de l'eau qui coule, les moteurs qui restent allumés pour faire marcher la clim ou le chauffage, le flingage des loups. Il y a même un chasseur qui a voulu tirer un renne pour pas rentrer bredouille.
Ah, oui, d'accord.
Des camions dans tous les sens, un petit peu, un tout petit peu d'agriculture dans la chimie.
Ah,
et
oui.
En plus, un parti dit écolo qui passe son temps à s'étriper et à ne plus parler des vrais problèmes. Non, mais franchement, vous rêvez, mon vieux. Vous croyez au Père Noël, vous? Non,
oui.
Mais c'est bien, continuez.
Bah, oui, je vais quand même essayer de continuer. Mais alors, vous-même, est-ce que vous adoptez quand même une écologie attitude?
Ah, mais attendez, moi, je suis irréprochable.
Ah, bon.
Irréprochable, ma houplande.
Oui.
Vous l'avez vu, ma houplande?
Oui, bah, elle est très bien.
Coton
oui,
non OGM.
Oui.
Mon cater... Enfin, 4-4, non. Mon 2x4N,
ah,
ne confondons pas.
Rassurez-moi, oui.
Non polluant, je donne du foin bio à mes bêtes. Et là, mon thermos est rempli de café issu du commerce équitable,
très
s'il
bien.
Vous plaît.
Ah, oui, oui.
Et j'ajouterai que mes lupins sont très bien traités.
Oui.
Je chauffe mon atelier à l'énergie renouvelable des étoiles.
C'est joli.
Et je n'essuie jamais mes pieds sur la Voie lactée, non. Non, franchement, je fais attention. Je vois bien de loin et de près la fragilité de la Terre, mon vieux.
Alors, le problème, ce sont peut-être les cadeaux que vous transportez.
je ne transporte pas de cadeaux.
Ah bon,
moi. Mais non. Mais je transporte des emballages.
Ah oui.
70% du traîneau, c'est de l'emballage. D'accord. Du carton, du sous-carton, du vide, du polystyrène, du papier pour envelopper quoi ? Des tas de saloperies qui sont fabriquées à Taïwan.
Ah oui.
Ah non, mais vous savez, il est bien loin le temps où on vous commandait une orange enveloppée dans du papier d'argent.
Ah,
non, là, vous savez ce que je fais ?
Non, qu'est-ce que vous faites ?
Eh ben, je fais tout simplement la fortune des ramasseurs de déchets.
Ah, oui.
Je nourris des poubelles pour les lendemains de Noël.
En général, qu'est-ce que vous offrez ? Qu'est-ce qu'on vous commande comme cadeau ?
Vous seriez effaré, des DVD, des compiles, des CD de la Starac, des maillots du Paris Saint-Germain, des jeux vidéo, des portables dernier modèle qui permettent de se photographier comme des cons n'importe où, n'importe quand.
Ah oui.
C'est pathétique, c'est pitoyable.
Il y a quand même des classiques qui reviennent, malgré tout, il y a des...
De temps en temps, quoi. Des poupées, des ours en plus. Les ours en plus,
oui.
Je les ai tous baptisés cannelle cette année.
Ah oui. Et alors, Père Noël, c'est un métier à risque aujourd'hui ou...
Mais ça n'arrête pas.
Ah oui.
Mais on refuse de m'assurer, vous le saviez, ça.
Ah non, non.
Comment ? Dans le ciel, faut se la nommer entre les satellites.
Oui.
Plus près d'ici, il faut éviter les paraboles.
Oui.
Il n'y a plus de place pour se garer près des antennes.
Oui.
En plus, les gens ne savent plus ce que c'est qu'une cheminée. Ils croient bien faire en allumant un feu, vous pensez ? Ils imaginent que je vais descendre dans leur conduit, mais je risque de me faire retirer comme une vieille dinde. Alors, qu'est-ce que je fais ? Ben, je mets tout dans la boîte aux lettres, qu'est-ce que vous voulez ?
Père Noël, un petit vœu peut-être quand même pour terminer, avant que je vous laisse en paix.
Un petit vœu. Un grand vœu,
oui.
Plutôt. Une terre propre, sans fumée partout, avec de l'eau claire, la nourriture saine pour tous. Je vous laisse, Denis Chessou. Je vais nourrir mes rennes et aller me coucher. Joyeuse fête à tous quand même.
Merci. Merci, Père Noël.
Cette joyeuse facétie avait 3-4 ans hein, quand on l'avait pondue et ben, je crois qu'il n'y a pas grand chose à retirer. Merci beaucoup Jean-Pierre Coff. Alors Jean-Pierre, vous le retrouverez dans Le Plaisir à petit prix aux éditions Plon. Ça va sortir dans quelques jours, Le Plaisir à petit prix. Et puis aussi une bande dessinée très bien faite qui s'appelle Les recettes des fêtes inratables. Les recettes de fêtes inratables, donc de Coff. C'est aux éditions Jingle. Jingle ou jungle, plutôt, c'est plutôt édition jungle. Merci à Marc Garvenez, Olivier Daligo, aujourd'hui la technique, à Sophie Ledoré, notre assistante, à Jean-Christophe Pinaza, mon camarade d'écriture, entre autres choses, et puis Fanny Bouillon, donc, qui réalisait cette émission.